Religion du monde. Geneviève Delru.
Bienvenue dans Religion du Monde. Au sommaire de l'émission, Medjugorje, plus de 2 millions de pèlerins chaque année dans la petite ville mariale de Bosnie-Herzégovine qui attend du Vatican une reconnaissance au moins partielle des apparitions de la Vierge. Le Vatican, sur sa réserve, a envoyé un émissaire chargé d'observer et d'analyser ce phénomène de piété populaire. Le reportage de Clémentine Métainier nous fera découvrir ce lieu très particulier qu'est Medjugorje en quête depuis 1981 de légitimité. Nous irons ensuite explorer le bouddhisme du 1er siècle de notre ère avec François-Marie Perrier qui entend mettre en lumière l'influence du christianisme naissant sur l'émergence du grand véhicule, une vraie révolution qui allait ouvrir le bouddhisme déjà vieux de 6 siècles à la dimension universelle. Enfin, nous rendrons hommage à une grande plume de l'information religieuse. Le journaliste Jean Mercier, rédacteur en chef adjoint à l'hebdomadaire La Vie et essayiste, vient de nous quitter à l'âge de 54 ans. En 2016, déjà atteint du cancer qui allait l'emporter, il avait écrit un conte philosophique, Monsieur le curé fait sa crise, aux éditions Quasar, aussi burlesque que profond pour rendre compte de la vie du prêtre dans la France d'aujourd'hui. Nous rediffuserons l'interview que nous avions alors réalisée à la sortie du livre qui avait été un best-seller. Située à la frontière avec la Croatie, Medjugorje est une bourgade des Balkans de 2000 habitants, habitée par des Croates de Bosnie-Herzégovine, c'est-à-dire catholiques. Et c'est sur une colline de la commune que la Vierge Marie serait apparue en 1981 à 6 jeunes, 4 filles et 2 garçons, aujourd'hui âgés d'une petite cinquantaine d'années, et qui disent voir toujours régulièrement la Vierge. À Medjugorje, les pèlerins viennent du monde entier. La petite ville rurale, autrefois pauvre, a vu les hôtels se multiplier et l'activité fleurir depuis la chute du communisme et la fin de la guerre des Balkans en 1995. Medjugorje a ses défenseurs inconditionnels, les pèlerins et les habitants de la ville bien sûr, les franciscains qui gèrent les lieux, des religieux convaincus de la véracité du discours des voyants comme l'abbé Laurentin en France, mort en 2017, et puis ceux qui n'y croient pas comme l'évêque de Mostar. Le Vatican lui se montre très prudent, il n'y a pas de reconnaissance des apparitions et la commission d'enquête qu'il avait diligentée n'a toujours pas rendu ses conclusions. Le sujet est donc hautement sensible et on va le voir avec vous, Clémentine Métayer. Bonjour.
Bonjour, Geneviève.
Journaliste indépendante qui revient d'un reportage réalisé à l'occasion de l'arrivée il y a une semaine à Medjugorje de Monseigneur Ozer, archevêque émérite de Varsovie, nommé visiteur apostolique de cette paroisse. C'est une sorte de mission d'observation. Alors Clémentine, il faut quand même déjà dire que vous n'avez pas rencontré le religieux polonais. Il devait arriver, mais son arrivée était vraiment entourée d'un véritable mystère et vous l'avez cherché pendant, j'allais dire, une bonne semaine.
Effectivement, il est vrai que je ne sais pas si je me serais rendue sur ce lieu si je n'avais pas eu cette information confirmée par des habitants, ou en tout cas les contacts que j'avais sur place, qu'il serait présent et même à partir du 15 juillet, au moment où j'arrivais. Donc c'était intéressant d'être là pour voir son arrivée. Il se trouve que rapidement, très rapidement, le premier jour, je me rends compte qu'il n'est pas là et qu'aucune version ne concorde dans les gens que je rencontre, c'est-à-dire que tout le monde sait qu'il arrive, mais personne ne sait quand. Donc effectivement, il y a un véritable mystère qui se crée, qui entoure son arrivée. Il y a comme une ambiance particulière, une ambiance un peu opaque, qui met un petit peu mal à l'aise et qui rend l'ambiance de ce village particulière. Donc moi, ça m'étonne. Pourquoi est-il si attendu, sachant que le pape François avait quand même dit à son retour de Fatima que les apparitions ne seraient pas reconnues, en tout cas pas maintenant, que ça prendrait du temps. Mais là, les habitants font un petit peu, et les commerçants, comme si de rien n'était. Donc c'est particulier. Et la deuxième chose dont je me rends compte, c'est qu'un journaliste n'est pas bienvenu. Je ne suis pas bienvenue avec mon micro, qui en plus se voit avec la moumoute, etc. Et là, on me dit, hors de question, nous avons ordre de ne pas parler aux journalistes, que ce soit les commerçants qui me disent « Oh non, je suis fatiguée aujourd'hui, je vais pas vous parler » à 3 reprises, donc ça montre ce que ça montre. D'autres qui me disent « On ne doit pas parler ». Donc ça crée une ambiance particulière et un petit peu qui me met vraiment mal à l'aise en me demandant « Mais pourquoi ?» Pourquoi tout ce mystère autour de cette arrivée ?
Vous avez quand même fini par rencontrer, Clémentine, un commerçant hein, qui également travaille à l'office, dans un des offices du tourisme, et qui a accepté de vous parler et de vous dire voilà pourquoi cette venue de Monseigneur Ozer est si importante. On va l'écouter.
Cette réponse est très très simple, c'est que ça fait déjà plus de 30 ans qu'on attend que Vatican fasse un pas vers Medjugorje, que Medjugorje soit vu par Vatican et que la situation de Medjugorje soit définie par Vatican. Donc c'est important à tous les niveaux. Nous, tout ce qu'on espère, tout ce qu'on voit dans ça, c'est qu'on va vers une reconnaissance de Medjugorje, mais on ne peut pas griller les étapes. C'est des petits, on fait des pas. Est-ce que ça sera dans un mois, dans un an, dans 5 ans? Ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que le Vatican a pris le dessous, travaille là-dessous et qu'on va arriver à une décision de Medjugorje comme un lieu de pèlerinage.
Bon, Clémentine, alors, il vous a répondu?
Ce monsieur est apparemment assez connu à Medjugorje. Il s'appelle Vasil Zelichko. Heureusement que je l'avais eu au téléphone 3 semaines avant, sinon il ne m'aurait pas répondu.
Hvala nisi, Marija. Kako si mi, fratre, dragi? Može jedna pomoć, molim te. Šta se događa sa našim dragim Hoserom?
Alors, Clémentine, c'est un échange téléphonique là qu'on entend. Vous êtes où à ce moment-là?
Alors, effectivement, un petit peu en désespoir de cause, je me dis qu'il faut sortir de Medjugorje pour trouver des gens qui vont me parler. Donc, direction Mostar, dont Medjugorje faisait partie du diocèse, géographiquement. Et là, je rencontre un journaliste qui est aussi politologue, qui apparemment est très connu dans le pays, qui connaît très bien le sujet de Medjugorje. Je le rencontre pour avoir un petit peu de distance avec lui, essayer de comprendre. Et là, même si il ne m'apporte pas beaucoup de distance, car je me rends compte qu'il est proche des prêtres franciscains, proche de Medjugorje, très catholique, il me donne quand même la confirmation que ordre a été donné de ne pas parler.
What can said a strong order to them?
Ce que je peux dire, c'est que des gens à Medjugorje ont eu ordre de ne pas s'exprimer et de ne pas apparaître publiquement. Il en est de même pour les 6 voyants, ceux qui affirment avoir vu la Vierge. C'est la raison pour laquelle l'archevêque, les prêtres locaux ne vous parleront pas publiquement sur le phénomène Medjugorje. Et puis il y a l'arrivée de Monseigneur Hauser. Je la vois comme une sorte de pas en avant vers la prochaine reconnaissance et je suis assez confiant sur le fait que l'émissaire va parler de miracles concernant Medjugorje et qu'il se passe quelque chose en ce moment. Néanmoins, nous devons être patients. Car je ne suis pas sûr que l'émissaire va prendre une décision définitive sur ces apparitions-là. C'est ce qui s'est passé pour Fatima et pour Lourdes. J'espère donc que cela va arriver pour Medjugorje. Même si on doit attendre des décennies pour que ça arrive, la venue de Monseigneur Hauser laisse présager que quelque chose de très important est en train de se produire.
Alors, en ligne de Rome, le correspondant de RFI au Vatican, Éric Sénanc. Éric, bonjour.
Bonjour Geneviève.
Quelle est la position exacte du Vatican sur Medjugorje?
Eh bien, on pourra la résumer par un seul mot, prudence. C'est une position constante depuis de longues années. Pas question pour l'instant de reconnaître officiellement la validité des apparitions. On a bien compris que c'était le cœur du débat. Pour faire d'ailleurs la lumière sur ce phénomène des apparitions, plusieurs commissions ont été créées ces dernières années. La dernière en mars 2010, c'était le pape Benoît XVI. Elle a rendu son rapport en 2014, alors que le pape François avait pris la succession du pape allemand. On ne connaît rien des détails du rapport. François ne les a pas encore rendus publics. Mais le pape actuel, lui, s'est prononcé clairement sur Medjugorje. C'était il y a un an dans l'avion qui le ramenait de Fatima au Portugal. François avait publiquement fait part de ses doutes sur ces apparitions qui continueraient au sanctuaire de Bosnie-Herzégovine. Le pape très sceptique quant au fait que la Vierge de Medjugorje envoie des messages continuellement et qu'elle se présente à des horaires fixes. Il a eu ce mot, la Madone n'est pas une télégraphiste. Ses présumées apparitions n'ont pas tant de valeur, et je le dis comme une opinion personnelle, disait encore François. Les choses avaient donc le mérite d'être claires. Mais le pape argentin est sensible, on le sait, à la piété populaire, et Dieu sait si elle est forte à Medjugorje. C'est pour cela que le Vatican a donc nommé ce visiteur apostolique, l'évêque, on en a parlé, Monseigneur Hauser, l'évêque polonais. Sa mission est claire, précise le Saint-Siège, elle est d'assurer un accompagnement stable et continu à la communauté paroissiale de Medjugorje et aux fidèles qui viennent en pèlerinage et dont les exigences requièrent une attention particulière, écrit le Saint-Siège. En clair, Geneviève, la mission de cet envoyé spécial du Vatican n'est pas de prononcer sur les apparitions, mais bien de s'assurer que les pèlerinages restent des moments de dévotion.
Alors Éric Sénanc, cet émissaire, donc Monseigneur Hauser, a prononcé sa première homélie, c'était dimanche dernier. Qu'y avait-il dans cette homélie? Que disait-il?
Eh bien, il a expliqué que des pèlerins venaient de très loin. Hein. Il a rappelé qu'ils venaient de 80 pays du monde à Medjugorje. Ils viennent trouver une lumière qui donne sens à leur vie. C'est ce qu'il a dit dans son homélie, reconnaissant ainsi donc toute cette ferveur et piété populaire dont on parlait. Pourquoi tant de personnes viennent chaque année à Medjugorje, a-t-il demandé, pour rencontrer Dieu et la Vierge? Pas d'allusion aux apparitions ou encore moins à une éventuelle reconnaissance hein, de ce lieu de pèlerinage. Monseigneur Auzère a bien pris le soin de rappeler que le pape François l'avait envoyé pour veiller hein, sur tous ces pèlerins qui vivent une expérience de foi, ils reçoivent les sacrements, etc. Et hormis son homélie de dimanche dernier, Geneviève, on pourrait citer d'autres propos très intéressants de Monseigneur Auzère. C'était il y a un peu plus tôt, le 5 juillet dernier, il dénonçait l'infiltration de la mafia dans le sanctuaire, des actions démoniaques qui cherchent à tout faire pour ruiner l'endroit, précisait-il. Une enquête d'ailleurs est en cours à Naples pour faire la lumière sur des liens supposés entre la Camorra et la gestion de pèlerinage. Et donc c'est une manière de dénoncer l'exploitation un peu mercantile hein, de Medjugorje que le Vatican a toujours vu d'un mauvais œil. Alors les apparitions de Medjugorje seront-elles un jour reconnues par le Vatican? Personne n'a la réponse pour l'instant. Le pape François a dit qu'il finirait par se prononcer, mais l'on ne sait pas quand. Une précision, il s'agirait des 7 premières apparitions seulement en 1981.
Merci Eric Sénanque pour ces précisions, effectivement, qui donnent un éclairage sur Medjugorje et effectivement ce sujet hautement sensible. Merci. Sur la question hein, de la reconnaissance donc des apparitions de la Vierge Marie à Medjugorje, vous avez rencontré un prêtre français, Clémentine Métayer, le père Ludovic. D'où vient-il? Il était en pèlerinage ou il vit sur place
hein? Oui, il était en pèlerinage. Il fait chaque année, en fait, depuis 15 ans, il emmène des jeunes. Alors, vous savez que on n'a pas le droit, les diocèses n'ont pas le droit d'emmener des bus ou des pèlerins. Donc, il y a des organisations qui passent par des associations ou des agences de voyage qui sont créées. Et là, notamment, une agence de voyage qui s'appelle le Club Medj, donc petite référence, petit jeu de mots. Et donc, il emmène chaque année des jeunes. Alors, il me dit aussi qu'il y a des jeunes athées, j'en ai pas rencontré, mais apparemment des jeunes qui viennent chercher une expérience dans ce lieu.
Il est de quel diocèse hein?
Il est du diocèse Fréjus-Toulon. Et donc, il se qualifie comme prêtre accompagnateur cette partie de l'année. Effectivement, j'ai pu le rencontrer et là, il m'a donné sa version des faits, ce moment particulier qu'est en train de vivre Medjugorje.
Il peut pas y avoir de reconnaissance parce que une reconnaissance totale, ça signifierait qu'on fait un chèque en blanc sur ce qui pourrait se passer dans les prochaines années. Et ça... L'Église ne peut pas le faire. L'Église ne peut pas engager. Vous voyez, les voyants donnent des messages chaque mois. Et on sait très bien que n'importe qui, les voyants comme nous-mêmes, nous ne sommes pas à l'abri d'abandonner le Seigneur, d'être attirés par autre chose que l'humilité. Et on pourrait imaginer, en tout cas, c'est arrivé dans des lieux d'apparition reconnus par le passé, que tel ou tel voyant finisse mal, disjoncte, part en vrille, quoi.
Clémentine, des paroles claires du père Ludovic, des paroles très claires, accompagnées par le chant des cigales.
Oui, des cigales qui peuplent Medjugorje, c'est impressionnant. Je croyais que c'était des grillons, mais non, ce sont des cigales. Et même pendant la messe, c'est marrant, quand il y a des centaines, enfin là, il y avait même un millier de personnes qui écoutent la messe le jeudi soir, il y avait les cigales qui se mettaient à chanter, donc ça décrochait des petits sourires aux pèlerins.
On va les entendre précisément, ces pèlerins, Clémentine. Geneviève, hein, il y a Geneviève.
Alors, Geneviève,
que vous avez rencontré en premier. Ça.
Voilà, c'est la première personne que j'ai rencontrée. Alors un peu quand j'étais un petit peu perdue, ne sachant comment organiser ma semaine à Medjugorje. Et elle était là avec une amie à elle. Elle parlait et en fait, elles se connaissent depuis très longtemps. Et Geneviève vient depuis 1984.
Moi, je peux dire que j'ai eu un avant et un après. Mon mari et moi, je suis arrivée à Medjugorje ne pouvant plus marcher. 3 accidents de voiture, perdu un enfant et le couple éclaté. Et ici, la Sainte Vierge a tout reconstruit le couple, il n'y a pas eu d'autres enfants, mais grâce au Père Iozo, 450 orphelins nous ont été confiés. Et on a fait toute la guerre ici, et c'était extraordinaire de voir tout ce qui s'est passé, et tout cela parce qu'elle veille, et qu'aujourd'hui, dans notre monde, le seul fil conducteur et lien qui peut être écoutée par tous les peuples et toutes les religions, c'est la Vierge Marie.
elle vient pour notre temps, parce que notre monde est en perdition.
Et donc vous venez plusieurs fois par an ici, toutes les deux.
Oui, on prend un abonnement, on peut plus quitter.
Puis il y a Nicolas aussi, que l'on va entendre, Nicolas.
Moi, il m'a touchée, un jeune homme qui marchait tout seul, enfin accompagné d'un ami, mais je savais pas trop s'ils étaient ensemble, et qui est venu vers moi pour me dire « Vous parlez français, est-ce que je peux vous donner mon témoignage ?» Donc on peut l'écouter.
Moi, je m'appelle Nicolas, et je suis avec mon meilleur ami. On est venu à Medjugorje, là, c'est la première fois, pour se recueillir, pour prier. Et on est un peu venu à la sauvage, quoi. On dort dans la voiture, on prend de la nourriture pas chère. En fait, comme on est jeune, on n'a pas beaucoup de moyens. Là, aujourd'hui, par exemple, on jeûne au pain et à l'eau, comme Notre-Dame de Medjugorje l'a demandé.
Vous avez quel âge ?
Moi, j'ai 21 ans.
D'accord.
Et moi, je vais faire 30 ans.
Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, plutôt que de partir en vacances à la mer avec des amis, vous décidiez de venir ici ? Comment on se motive ?
La foi, d'abord. Et puis, je sais pas, moi, le Christ jusqu'à présent m'a rendu très heureux, alors que j'ai été malheureux une bonne partie de ma jeune vie. Depuis que j'ai rencontré le Christ, ma vie, elle a complètement changé. Tout m'est arrivé dessus, que des bonnes choses, alors qu'avant, j'avais que des choses négatives. Et là, il m'est arrivé que des flots de bons moments et tout ça et tout ça.
Et alors pourquoi avoir décidé de venir à Medjugorje plutôt que par exemple Lourdes ? Qu'est-ce que ça vous apporte là, ce pèlerinage ?
On est allé à Lourdes aussi. En fait, on fait tous les sanctuaires qu'on peut quand on a les sous. Et on essaye de faire différents sanctuaires. Et Medjugorje parce que c'est très connu et qu'on avait envie d'y aller parmi les sanctuaires qu'on a préparés pour découvrir. Ouais.
Clémentine, pourquoi Nicolas dort dans sa voiture ? C'est cher la vie à Medjugorje ?
Oui, c'est cher. C'est un sacré budget pour les pèlerins, parce que il faut, quand on prend le bus du début de la France, du début du voyage en France et qu'on arrive jusqu'à là-bas, il faut ensuite se loger, il faut ensuite manger tous les jours, il y a aussi beaucoup le commerce religieux, et il faut payer chaque organisation, chaque moment organisé par le pèlerinage. Donc, c'est-à-dire, par exemple, des moments de rencontre avec des voyants, peut-être qu'on en parlera, ou d'autres moments de messe. Tout est quand même payant et le voyage est très cher.
Vous évoquez la rencontre avec les voyants. Les voyants, on peut prendre un rendez-vous avec les voyants.
Alors, moi, journaliste, je ne peux pas. Oui. Vous non plus, si vous débarquez toute seule, vous ne pouvez pas. Oui. C'est seulement quand on fait partie d'un groupe de pèlerins. D'accord. Donc, par exemple, ce Nicolas, je pense qu'il ne peut pas le faire. Tout est très organisé et il y a vraiment des timings. Pour rencontrer les voyants, on ne peut pas les rencontrer avant ou après. Et c'est les groupes de pèlerins qui les rencontrent. Et c'est payant.
C'est la question précisément que je comptais vous poser, Clémentine, vous m'avez devancée. Alors, il y a des catholiques qui viennent du bout du monde, hein, comme ces pèlerins venus d'Australie, qui rêvaient depuis des années de venir à Medjugorje.
It's been a dream of mine to bring my whole family here for 20 years or so.
Ça fait 20 ans que je rêvais d'emmener toute ma famille. Cette année, j'ai eu un grand appel du cœur. J'en ai parlé à ma famille. Et voilà, nous y sommes.
Pour vous, ce serait important que le Vatican reconnaisse ce lieu ?
Absolutely, absolutely. And I hope and pray that.
Absolument, bien sûr. Et je prie pour que l'Église fasse ce bon choix. Tous ces gens, toutes ces expériences. Je sais que souvent, ça prend beaucoup de temps, que la reconnaissance se fait même parfois longtemps après l'événement. Mais j'espère que ça ne sera pas le cas. On a tous travaillé pour la reconnaissance de Lourdes, Fatima. Alors, on est plein d'espoir pour Medjugorje.
And aware of Medjugorje now.
So it's important.
Very important. Very important.
Alors, Clémentine, en conclusion, Medjugorje qui va entrer dans la galaxie des grands sanctuaires Mario. Medjugorje, une planète à part, un sanctuaire marial à part.
Alors, vous avez fait allusion au mot planète. Effectivement, des gens parlent de la planète Medjugorje ou du phénomène Medjugorje, même des gens sur place, parce que les apparitions continuent. Et c'est la grande différence, d'ailleurs, avec Lourdes, c'est ce que les gens m'ont dit. Ici, ça continue. On a entendu ces deux petites dames qui sont un petit peu pessimistes sur l'avenir du monde, sur l'avenir de la France. Et pour elles, le fait que la Vierge continue d'apparaître est quelque chose d'extraordinaire. Donc, elle n'apparaît que pour les voyants. Il n'y a jamais eu d'autres cas d'apparition pour d'autres gens. C'est pour ça que tout est organisé autour d'un commerce religieux. Il y a notamment tous les débuts du mois, le 2 de chaque mois, les voyants qui organisent en plein air, en public, leur apparition. Donc tout ça est devenu quand même très touristique. On sent quand même une atmosphère de commerce évidente. Et reconnaissance ou pas, les pèlerins vont continuer d'affluer.
Je vous remercie Clémentine Métainier pour ce reportage dans ce sanctuaire marial. Merci.
Merci.
Religion du monde. Geneviève Delru.
On fait à présent un saut en arrière pour retrouver le bouddhisme du 1er siècle avec notre invité François-Marie Perrier qui met en lumière un point peu connu de l'histoire du bouddhisme, à savoir l'influence au 1er siècle du christianisme sur l'émergence en Asie du Mahayana, appelé plus communément grand véhicule. François-Marie Perrier, bonjour.
Bonjour.
Cette influence du christianisme sur le bouddhisme, c'est donc tout le sujet de votre livre, au titre un peu obscur, « La porte étroite et le grand véhicule », donc livre publié au Mercure Dauphinois, car je précise que vous êtes grenoblois. Alors, quelques mots précisément sur vous. Vous n'êtes pas un universitaire, mais un chercheur indépendant. Vous êtes un érudit, un grand voyageur, passionné par l'histoire des religions. Vous avez été guide dans de nombreux pays et dans plusieurs régions du monde, dont l'Inde et le Proche-Orient. Alors, quand est le Mahayana, cette révolution au sein du bouddhisme, le bouddhisme né en Inde avec le Bouddha Siddhartha Gautama, le prince qui a renoncé à son trône pour rechercher l'éveil et la vérité, eh bien le bouddhisme a déjà 6 siècles. Alors pourquoi ce nouveau courant émerge-t-il et à ce moment-là ?
C'est apparu de façon un petit peu obscure et voilà que soudain apparaissent de nouveaux Bouddhas, y compris une divinité féminine associée à la sagesse suprême. De nouveaux textes, de nouveaux sutras, hein, c'est la traduction du mot texte. Un paradis de la terre pure d'Occident qui apparaît. Un Bouddha messianique dont on reparlera. Et tout cela apparaît donc dans l'ancien empire Kushana, dans les royaumes indo-grecs où on parlait le grec et l'araméen, où on écrivait le grec en araméen, puisque nous sommes sur la route de la soie. Où ces deux langues étaient les langues du commerce international, de la culture, de la communication entre les peuples.
Et c'est un chemin, bien sûr, que vont emprunter les premiers chrétiens.
Voilà, absolument. C'est-à-dire qu'en fait, on parle souvent de Thomas comme l'apôtre des Indes, arrivé au Kerala et martyrisé à Damas, hein, où on peut visiter son tombeau, Madras, aujourd'hui Chennai. Mais on oublie qu'il y avait cette route de la soie et que l'empire Kushana, qui s'étendait sur un grand arc qui allait du sud de la Chine jusqu'aux plaines de l'Inde, en englobant le Tadjikistan, l'Afghanistan, le Pakistan, le Pendjab. Cet empire Kushana était syncrétiste, et c'est-à-dire qu'il il accueillait de nombreuses fois, il avait tendance à les rassembler. Et donc cet immense empire Kushana était en relation avec l'empire romain, puisque leurs empires se touchaient quasiment.
Donc votre théorie, j'allais dire, François-Marie Perrier, c'est que deux mondes vont se rencontrer, qu'en fait l'émergence du christianisme au 1er siècle de notre ère et cette révolution bouddhique, eh bien pour vous, ça n'est pas un hasard.
Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, si on regarde une carte et une chronologie du monde au 1er siècle après Jésus-Christ, et on doit toujours travailler comme ça en tant qu'historien, c'est la base, hein, histoire-géographie, ça nous rappelle des souvenirs d'école, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a l'apparition simultanée du grand véhicule dans l'Empire Kushana et du christianisme au Proche-Orient. Le christianisme représentant une révolution à l'intérieur du judaïsme et le Mahayana représentant une révolution à l'intérieur du bouddhisme des origines. Et dans les deux cas, on a un salut qui est proposé à l'ensemble de l'humanité, une primauté de la compassion et de la recherche de la sagesse sur la naissance et sur l'accomplissement de la loi, alors ce que le Bouddha avait déjà apporté dans l'hindouisme, mais cette idée d'un salut universel apporté à tous, d'un sacrifice, on va en reparler, pour l'humanité, du retour d'un messie à venir, d'un paradis, tout ça apparaît au 1er siècle de notre ère, dans l'Empire Kushana et dans l'Empire romain.
Alors, cette corrélation que vous avez constatée, est-ce qu'elle est rejointe par des travaux universitaires ? Est-ce que ces travaux dérangent ? Est-ce que ces découvertes dérangent ?
Je pense effectivement, j'ai constaté par les nombreux contacts que j'ai pu prendre avec les hiérarchies ecclésiastiques ou des deux spiritualités, par mes contacts avec le monde universitaire et aussi avec le monde journalistique, que c'est quelque chose qui effectivement met un petit peu mal à l'aise, parce que en gros l'idée c'est si c'était ça, ça saurait. Mais en fait, par définition, lorsqu'une religion va intégrer les cultes les lieux d'adoration, l'architecture, les textes, etc. d'une autre religion, elle ne va pas en garder trace, parce que ça serait garder la trace finalement de ce qu'on a intégré, alors qu'on cherche à dire, mais voilà, nous proposons un nouveau salut et il est mieux que les autres et il y a une année zéro qui commence avec nous.
Alors revenons, François-Marie Perrier, à ce grand véhicule, donc l'émergence de cette révolution hein, au premier siècle de notre ère, ces influences chrétiennes sur le bouddhisme, comment apparaissent-elles ?
Je veux souligner aussi le rôle mineur mais important du zoroastrisme. La religion perse, on connaît Nietzsche, ainsi par les Zarathoustra, mais c'est surtout Zoroastre qu'on l'appelle en Perse, parce que le zoroastrisme, à travers l'idée de paradis, de sauveur, de retour du sauveur, il va avoir son importance. Hein. Mais vraiment, le déclencheur pour moi, c'est l'arrivée des premiers chrétiens sur la route de la soie, puisque de toute façon, ils étaient en exil, hein, ils étaient quand même, ils ont été assez vite persécutés, réfugiés dans cet empire-là, et dont le message, pour moi, a fortement impressionné les bouddhistes présents sur place. Ils se sont dit, voilà, il y a un grand Bouddha d'Occident qui est apparu, il s'est sacrifié par amour de l'humanité.
Il s'appelle Jésus.
Voilà, cette idée de fils de Dieu. Vous savez, à l'époque, les fils de Dieu étaient un peu monnaie courante. Hein, les héros, tout ça, c'était tous des fils de Dieu et de mortels. Ça apparaît, et pour moi, ça va tellement impressionner qu'ils vont dire, eh bien, finalement, la compassion, le sacrifice pour l'humanité, c'est encore plus beau que le fait de vouloir se dissoudre dans le nirvana et devenir un bodhisattva, celui qui fait vœu de s'éveiller, mais de rester dans la création, de ne pas se dissoudre dans le nirvana par amour pour l'humanité jusqu'à ce que tous les êtres, toutes les créatures soient libérées, c'est encore plus beau.
C'est-à-dire qu'en fait, c'est ça, il y a deux phases dans le bouddhisme. Il y a le bouddhisme des origines où il s'agit de sortir du cercle infernal des renaissances.
Du samsara.
Voilà, donc ça c'est la première phase. La deuxième phase, c'est être éveillé, mais pour l'humanité.
Voilà, et donc c'est l'idéal du bodhisattva. Le bodhisattva, c'est l'être qui se consacre à l'éveil.
C'est ça, pour le bien de tous les êtres,
voilà.
C'est ça.
Et qui renonce au nirvana, qui fait ce vœu-ci, le vœu du bodhisattva, et je vais peut-être me tromper un petit peu, mais aujourd'hui, je fais le vœu d'atteindre l'éveil pour le salut de tous les êtres.
Donc en fait, c'est ça, Jésus, c'est
le bodhisattva
par excellence.
Voilà.
Par excellence.
Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps.
Et d'autres visages de Bouddha vont apparaître également.
Alors, voilà, c'est-à-dire que avant le premier siècle avant Jésus-Christ, il y avait un seul Bouddha. Le Bouddha que vous avez cité, Siddhartha Gautama Shakyamuni.
Donc ce prince qui abandonne tout pour...
Voilà, qui aurait vécu entre 580 et 495 avant Jésus-Christ, dans le nord de l'Inde, près de l'Himalaya. Et voilà qu'apparaît une trilogie, une triade de Bouddhas, dit des Bouddhas d'Occident. C'est le terme que les bouddhistes leur
locaux.
Donnent. Oui, c'est le
donne.
Terme. Voilà. En Chine, aujourd'hui, on les appelle toujours les trois saints de l'Ouest, et ils sont représentés ensemble. Alors, là, je vais citer des noms un petit peu compliqués, mais on peut pas en faire l'économie.
Allez-y, on vous écoute, François-Marie Perrier.
Le premier, c'est Amitabha, le Bouddha de la lumière infinie, qui est énormément prié, toujours en Chine et puis ailleurs, hein, et qui porte différents noms en fonction des pays. Le deuxième, c'est Avalokiteshvara, qu'on appelle aussi Chenrezig, dans le bouddhisme tibétain, qui va devenir un bodhisattva féminin en Chine, Guanyin, et la déesse Kannon au Japon. Et le troisième de ces Bouddhas d'Occident, c'est Mahashtama Prapta, qui signifie « arrivé d'une grande puissance ». Et ils sont représentés tous les trois dès les premières décennies de notre ère, et dans les siècles suivants. Le musée Guimet de Paris est plein de sculptures de l'art gréco-bouddhiste. Hein.
En conclusion, François-Marie Perrier, quel est le message en fait hein, de cette étude et de ce livre? Donc, à savoir effectivement l'influence chrétienne sur le bouddhisme du premier siècle après notre ère.
D'abord, j'ai voulu rétablir une vérité historique que les outils que j'ai cités montrent de façon assez claire. Adresser un message de connaissance réciproque aux deux spiritualités. Et puis, ce qui s'est réalisé au premier siècle après Jésus-Christ, c'est magnifique. Cette synthèse du christianisme, du bouddhisme et puis du zoroastrisme que Mani avait réalisé à travers le manichéisme exactement à la même période. Hein. C'est magnifique parce que c'est vraiment l'union de la sagesse et de l'amour. Et quand on voit l'art du Gandhara, qu'on appelle aussi art gréco-bouddhiste, on peut percevoir tout le génie de cette rencontre à travers la beauté des statues. Et l'art, pour moi, reste un témoignage au-delà de toutes nos gloses. L'art reste un témoignage magnifique de ce qui s'est passé dans les premiers siècles de notre ère.
Et c'est un message aussi pour nous. Est-ce que c'est un message pour, effectivement, à l'adresse des religions ou des spiritualités qui pensent souvent être voilà les seuls détenteurs d'une vérité.
Absolument. Alors ça, c'est effectivement, c'est très important parce qu'à certains moments de l'humanité, en Andalousie, dans le christianisme celtique, dans les premiers siècles de l'ère chrétienne, et puis dans l'Empire Kushana, ou encore à Palerme ou à Bagdad, il y a eu des moments de grâce, je dirais, où des synthèses ont été faites qui touchaient les arts, la science, les religions, et qui pour moi ont vraiment offert une chance à l'humanité de repartir sur un bon pied. Là, on était dans la zone extrêmement hellénisée de l'ancien empire d'Alexandre, hein, avec cet humanisme hellénistique, qui, avec le beau, le bien, le vrai de Platon. Hein. Faut se rappeler qu'Aristote avait confié à Alexandre la mission d'unifier le monde. C'est très fort. Et même dans l'islam, on considère Alexandre comme un prophète, parce qu'il a unifié justement l'Orient et l'Occident. Et c'est un peu ce qui s'est passé finalement dans le Mahayana, quelque part, une volonté d'unifier le monde.
Je vous remercie, François-Marie Perrier. Donc, je rappelle le titre de votre livre, La porte étroite et le grand véhicule des premiers chrétiens au Bodhisattva, révélation sur les origines du Mahayana. Et c'est donc publié aux éditions Le Mercure Dauphinois. Merci.
Religion du monde. Geneviève Delrue.
Le curé a disparu ? C'est un truc de fou. Sa gouvernante dit qu'il est parti cette nuit, apparemment. Il a laissé un mot disant qu'il en avait ras-le-bol et qu'il disparaissait. Il est parti à pied, en plus. Il n'a pris ni voiture, ni portable. Impossible de le géolocaliser, donc. Il n'a sans doute pas envie qu'on le piste, le malin. Le presbytère bruisse comme une fourmilière, car la nouvelle de la disparition de l'abbé s'est répandue dans le bourg comme une gastro-entérite dans une école maternelle.
Monsieur le curé fait sa crise aux éditions Quasar, un conte philosophique aussi caustique et drôle que tendre et profond sur la vie du prêtre et des paroisses dans la France d'aujourd'hui, restera le dernier témoignage du journaliste Jean Mercier, décédé à 54 ans le 19 juillet dernier après plus de 3 années de lutte contre un cancer. Rédacteur en chef adjoint à l'hebdomadaire La Vie, cet humaniste chrétien, chercheur de Dieu, était une des grandes plumes françaises de l'information religieuse. Au cœur de la maladie, en 2016, celui qui avait publié un livre qui fait autorité sur le célibat des prêtres avec la rigueur et l'indépendance d'esprit qui le caractérisait, poursuit son sujet de prédilection en créant de toutes pièces un personnage de roman, l'abbé Benjamin Bucquois, qui va se faire la malle, s'enfuir un beau matin. L'abbé Benjamin Bucquois n'en peut plus, des petites querelles stériles avec ses paroissiens, des petites jalousies, de la paperasserie, des réunions. Il est en colère, même son évêque ne le comprend pas, et sa vie est bien loin du ministère sacerdotal rêvé. Succès de librairie, Monsieur le curé fait sa crise, a été traduit en italien, en polonais et en portugais. Jean Mercier était venu le présenter, présenter son Don Camillo dans notre émission. C'était en janvier 2017.
Il est un peu comme pas mal de prêtres aujourd'hui, c'est-à-dire que il essaie de vivre les choses au mieux dans sa paroisse et de faire en sorte que les choses, notamment que la vie soit vivante, que les personnes arrivent à travailler ensemble. Et alors il a énormément de difficultés parce que sur le terrain, figurez-vous que c'est un peu comme partout. Eh bien, les gens parfois se marchent sur les plates-bandes les uns des autres, et il y a des rivalités, il y a des jalousies, et puis le curé, eh ben, il se retrouve souvent en position d'arbitre, et il n'a pas toujours envie d'arbitrer entre des dames qui se chamaillent pour savoir quel pot de fleurs mettre à tel endroit dans telle chapelle de l'église. Voilà, l'histoire, c'est en fait, effectivement, ce brave abbé Benjamin qui est aux prises avec tout un tas de difficultés très humaines, dans une paroisse très humaine avec des personnes qui ont du mal quand même à fonctionner ensemble.
Alors, une paroisse assez connotée, j'allais dire, hein, socialement. On est plutôt du côté de la banlieue ouest de Paris, non ?
Pas vraiment. En vrai dire, on est aussi dans une paroisse de campagne. Hein. J'ai essayé de camper quelque chose qui était justement un peu nulle part. mais suffisamment, enfin, de telle sorte que les gens puissent s'identifier quand même.
Alors, le roman s'ouvre sur une scène très amusante. C'est notre abbé qui est face à une de ses paroissiennes, hein, en charge de la décoration florale. Et puis, elle craque. Elle dit qu'elle n'en peut plus. Et là, manifestement, il y a une rivalité entre ces deux femmes chargées de la décoration florale. Et je dois dire que cette scène est extrêmement drôle, Jean Mercier.
Pour tout vous dire, que ce livre, j'en ai écrit les premières pages où j'en ai eu l'idée. Un jour, quand à la messe, j'ai vu revenir une paroissienne que je connais par ailleurs, l'air totalement excédé, et elle avait l'air de s'être vraiment disputée avec une autre dame, je pense autour du groupe de catéchisme, et je me suis dit voilà, il faut écrire des choses là-dessus, parce que finalement c'est pas très drôle les gens qui se disputent, mais si vous arrivez à prendre ça sous l'angle de l'humour, vous arrivez à faire comprendre pas mal de réalités.
Et bien précisément, on va écouter cette histoire donc entre Brigitte et Guimette.
Guimette est belle, très belle. Ce qui n'est pas ce que l'on dirait spontanément de Brigitte. Son mari, le sémillant Thibault, est cadre supérieur dans une banque d'affaires. Il aime sa femme. Cela se voit pendant la messe, cette façon qu'il a de lui prendre discrètement la taille au moment du signe de paix, quelques secondes seulement. Ensemble, ils ont eu 6 enfants. 3 garçons, Aymeric, Vianney et Théophane. 3 filles, Maëlys, Ludivine et Alix. Cette famille est un vivant reproche pour Brigitte qui, elle, est stérile. Avec son mari, Gérard, ils ont adopté Olivier quand il était tout petit. Olivier ne fait rien à l'école, fume du cannabis depuis l'âge de 13 ans et a redoublé 2 fois. Bien sûr, il n'a jamais voulu être enfant de chœur ni scout comme les fils de Guimette et Thibault. Et il ne vient plus à la messe depuis des lustres. Pas plus que son père, Gérard, un vrai mécréant à l'opposé de Thibault, qui est évidemment un pilier de la paroisse.
Là, c'est comme dans un film, hein, Jean Mercier. Les deux femmes, les deux maris, les deux familles, tout les oppose.
Oui, c'est caricatural. Mais c'est aussi une manière de dire que dans l'Église, il y a des gens très différents aussi. Et c'est souvent cette diversité à la fois de milieux sociaux et voilà, qui fait aussi la richesse de l'Église catholique. Parce que si tous les gens se ressemblent, ça devient horriblement ennuyeux. Et alors du coup, puisque les gens sont différents, eh ben voilà, il y a des frottements.
Alors, notre abbé va se faire la malle, Jean Mercier. Un jour, il n'en peut plus, justement, entre les querelles de paroissiennes, entre aussi les reproches de la femme qui est en charge du catéchisme, les reproches de ses paroissiens. Il y a aussi un paroissien qui le harcèle avec une histoire de chapelle totalement à l'abandon qui a été vendue à un musulman. Alors, ce musulman veut simplement récupérer le terrain pour pouvoir faire construire, j'imagine, une maison. Bien sûr, le bruit court que ça va être une mosquée, etc. Et de tout cela, il en a marre parce que finalement, c'est pas cela qu'il voulait. Hein, c'est pas ça qu'il voulait, notre prêtre. Il voulait une vie religieuse beaucoup plus, j'allais dire, beaucoup plus riche et puis moins dans la paperasserie aussi. Alors, il décide de partir.
Oui, en fait, il voulait une vie gratifiante.
Oui.
Mais la réalité est souvent beaucoup moins gratifiante que ce qu'on attend. Et effectivement, alors il y a ces querelles entre les paroissiens qu'il est obligé d'arbitrer. Il y a ces difficultés, ces conflits assez parfois idéologiques avec les gens des bureaux diocésains, donc un peu les apparatchiks qui semblent lui imposer d'en haut, de l'extérieur, des choses qu'il devrait faire. Et puis il y a aussi ce qu'il essaie de faire bouger au niveau de sa paroisse. Et c'est souvent, comme on peut parfois le rencontrer dans les paroisses, des curés ont tendance parfois à être un peu autoritaires. Et alors lui, il l'est particulièrement. Donc il décide comme ça, par des oukases, de faire telle et telle chose. En fait, il se retrouve vite face à une rébellion de la part des gens. Et il n'arrive pas à comprendre qu'il faudrait s'y prendre différemment pour faire passer ses idées. Et que le relationnel, c'est ça prime, évidemment. Ça prime surtout. Et en fait, il accumule en lui une colère de plus en plus importante qui un jour effectivement va exploser. Mais ce qui est intéressant, c'est que la colère va exploser non pas tellement pour des facteurs internes à la paroisse, mais parce qu'il apprend un jour, un peu par hasard, en se confiant à un de ses collègues et à un de ses confrères, que le poste dont il rêvait que l'évêque lui confie ce poste qu'il convoitait, eh bien, il lui passe sous le nez et du coup...
Alors, c'est le poste de quoi?
C'est le poste, il rêvait d'être enseignant, d'enseigner la Bible au séminaire. Et puis finalement, c'est ce jeune collègue qui est choisi à sa place pour faire le job. Et alors là, il est vraiment... c'est une espèce d'effondrement narcissique, si vous voulez, pour prendre des termes un peu barbares.
Qui existe tout à fait dans l'Église.
Qui existe dans l'Église parce qu'il existe partout.
C'est-à-dire
dans n'importe quel endroit, si vous avez le poste dont vous rêvez qui vous passe sous le nez, eh ben ça vous fait mal. Et ben ce curé, il est comme les autres. Il décide de craquer. Et effectivement, alors il va craquer d'une manière particulière. Mais là, j'introduis à ce moment-là, on bascule dans quelque chose de beaucoup plus burlesque dans mon livre, à partir de choses qui étaient déjà parfois un peu loufoques. Mais il faut pas oublier que parfois il y a des choses beaucoup plus graves. Mon prêtre ne décide pas de passer de vie à trépas, mais parfois ça existe qu'il y a des prêtres, par exemple, qui effectivement sautent d'un viaduc, comme on l'a vu cet hiver à Morlaix en Bretagne. On ne sait pas pourquoi. Des gens qui pètent les plombs.
Heureusement, là, c'est quand même plus simple. Il va aller au fond de son jardin.
Il va aller au fond de son jardin. Alors là,
une cabane.
On est obligé de dévoiler un peu l'histoire, effectivement.
Oui.
C'est évidemment beaucoup, c'est pas tragique, mais on rentre dans quelque chose de beaucoup plus symbolique parce que, effectivement, ça ne s'est jamais vu qu'un prêtre comme ça décide de s'emmurer dans un cabanon au fond de son jardin. C'est pourtant ce qu'il va faire. Il va changer complètement de statut en s'auto-enfermant, si vous voulez, dans un espace restreint, réduit. Donc là, effectivement, on quitte complètement la description des mœurs paroissiaux pour rentrer complètement dans quelque chose de presque onirique, de presque qui relève réellement, effectivement, du conte.
Alors, ce qui est très drôle, Jean Mercier, c'est quand les paroissiens, quand le village apprend que le curé s'est fait la malle. Alors, il y a ceux qui vont dire « Oh bah oui, il est parti avec une fille », la journaliste tout de suite qui se dit « Oh là là, il y a un bon sujet », etc. Bon, ça crée une vraie excitation.
Absolument, parce qu'on s'attend absolument pas à sa disparition. Et il a juste laissé un petit mot en disant « Voilà, je disparais ». Donc, tout est possible. Les scénarios les plus tragiques aux choses les plus, les plus légers, cocasses, parce qu'il est parti avec une fille, effectivement. Bon, il n'est pas parti avec une fille, ça, on va vite le découvrir. Mais, néanmoins, il y a aussi ce phénomène de la culpabilité qui arrive. Et puis, alors là, je dois dire, moi, en tant que journaliste, j'ai introduit à ce moment-là, une certaine satire des médias.
Oui.
Parce qu'effectivement, la disparition, avec tout ce que ça suscite dans l'imaginaire des gens, va donner lieu à des élucubrations de la presse locale. Et c'est vrai que je pense qu'il y a de la part une volonté un peu de montrer aussi comment ça fonctionne.
Voilà.
Et comme quoi la figure du prêtre, vraiment, elle interroge quand même les gens, elle les stimule un peu. Il y a ce côté, finalement, dans le subconscient de notre pays, il y a ce côté un peu Don Camillo qui est là. Même si les prêtres, il y en a de moins en moins, même si les gens vont plus à l'église, il y a cette espèce, effectivement, le prêtre disparaît, alors tout à coup le village, la petite ville s'émeut, et essaie de trouver une solution.
Et c'est la journaliste de la presse locale qui sait où il se trouve, qui va en quelque sorte le confesser. Dans les colonnes de son journal, il va expliquer les raisons de sa fuite, de son épuisement, les gens qui prennent le curé pour un homme à tout faire, le curé qui passe son temps sur les routes, les sacrements qu'il donne à des gens qui finalement n'ont pas vraiment envie de changer de vie. Tout cela, Jean Mercier décrit bien la vie du prêtre aujourd'hui.
Ben oui, parce qu'effectivement, ils sont débordés par tout un tas de demandes. Mais j'ai envie de dire, ça résume bien aussi la vie de chacun d'entre nous, quand on est.
On s'éreinte aussi.
Oui, parce que finalement, on a aussi trouvé le cœur de nos métiers ou le cœur de nos activités. C'est pas toujours évident parce qu'on est un peu explosé par tout un tas d'autres choses. Mais en particulier pour les prêtres, je pense que la grosse question qui se pose aujourd'hui, c'est une question d'ordre existentiel et identitaire pour un certain nombre d'entre eux. Ils sont de moins en moins nombreux, ils n'ont plus la reconnaissance qu'ils avaient jadis. Et donc, à quoi ils servent? Alors effectivement, s'ils servent juste à remplir la vie des gens avec des sacrements qui finalement vont pas vraiment changer les choses, c'est pas très intéressant. Mais a priori, un prêtre, quand il devient prêtre, c'est parce qu'il a envie de comme on disait jadis, sauver les âmes, c'est-à-dire de faire que les gens se rapprochent de Dieu. Hein, voilà, donc c'est ça un peu leur, c'est pour ça qu'ils sont, ils ont décidé d'être prêtres, sinon ça sert à rien. Et alors ils se rendent compte que ben voilà, c'est pas toujours évident et qu'il y a effectivement des murailles de paperasserie et de parfois de tracasserie aussi, puis souvent sur le terrain, au fond, beaucoup de médiocrité, alors que ce qu'ils voudraient, c'est plus de sainteté. Vous voyez, c'est toujours ce rêve qui est finalement, qui est un peu comme l'horizon, plus on se rapproche et plus il s'éloigne.
Vous avez de la tendresse pour votre abbé Jean Mercier, pour l'abbé Benjamin Bucquois.
Oui, beaucoup, parce qu'au fond, il me ressemble un peu. C'est-à-dire, je pense que même on est tous à un moment de notre vie, on se pose tous la question de voilà, on se retourne sur notre vie, on se dit mais voilà, à quoi j'ai servi, pourquoi je suis là, est-ce que ça vaut encore la peine que je me batte pour faire telle et telle chose. Enfin, vous voyez, c'est des questions existentielles et qui sont fondamentales. Et je crois que l'histoire de ce livre, c'est comment on va replonger dans sa mission profonde. Hein. Je pense que la question, elle se pose. Ce livre, il serait pas uniquement intéressant. Enfin, je n'aurais pas vendu 22 000 exemplaires si ça parlait uniquement d'histoire du curé. C'est qu'au fond, chacun trouve quelque chose de très personnel qu'il touche.
Et mais c'est une fable spirituelle aussi.
Voilà, c'est une fable qui finalement montre comment on peut guérir de la colère, hein, guérir de la frustration en retrouvant ce qui est au fond de nous. Et le plus important est ce qui est au fond notre mission propre. Et trouver sa vocation propre, hein, même sans être prêtre, c'est pas si évident. Hein, ça se passe souvent à travers un métier, un travail, mais aussi des attachements, des choses qu'on construit dans sa vie affective. Et trouver les lieux où on existe vraiment en vérité et qui nous fondent profondément. Ça demande de savoir relativiser, de remettre des choses à leur place et de se recentrer, d'apprendre à être en contact avec ce qui est finalement le plus important pour soi.
Il y a le pardon, d'ailleurs, dans votre livre. Hein?
Alors, moi, j'insiste beaucoup sur cette question du pardon et de la conversion. Alors, c'est un thème qui est très très fortement présent dans mon livre.
Religieusement, mais qui peut être aussi dans la vie de tous les jours.
Voilà, et alors, justement, l'histoire de mon curé, c'est il va être amené à se convertir lui-même parce que ses paroissiens, les uns et les autres, auront fait tout un tas de chemins aussi de conversion les uns par rapport aux autres. Je pense que voilà, on est tous liés, tout se tient finalement dans nos vies. Et alors évidemment, la question du pardon et de traverser la colère est centrale.
À la fin, finalement, votre prêtre, votre abbé, Jean Mercier, se réconcilie. Tout le monde se réconcilie finalement. C'est l'histoire d'une grande réconciliation, non ?
Oui, alors effectivement, c'est une histoire qui se termine bien. Néanmoins, ou moins bien, parce que mon curé, il va devoir apprendre, à rebondir, hein, parce qu'il ressort de son histoire avec un handicap physique.
On va pas tout dire.
Et on va pas tout dire, mais je crois que c'est aussi beau. J'ai voulu montrer aussi à la fin que l'importance aussi, c'est de comprendre que la force qu'on peut avoir et la puissance qu'on peut avoir dans sa vie, ça passe parfois par la faiblesse et l'acceptation. Et de qu'on n'est pas parfait et que on peut avoir des moments physiquement où on est ou psychiquement où on est pas du tout au top, mais je crois que cette message de la force dans la faiblesse, il est central dans le christianisme, bien sûr, et il est à entendre finalement en chaque début d'année où effectivement on a plutôt tendance, on voudrait que tout soit, on voudrait être les meilleurs du monde, on voudrait être
les plus forts,
les plus forts et les champions, et puis au fond finalement c'est souvent à travers nos limites qu'on aide les autres à avancer et puis qu'on est réellement nous-mêmes.
C'est Christiane Singer qui disait que les crises faisaient grandir, effectivement.
Effectivement, et je crois que dans cette histoire de crise, il y a cette dimension de la croissance à travers la difficulté.
C'était Jean Mercier, le père de l'abbé Benjamin Bucquois, s'en est allé le 19 juillet dernier, rejoindre au fond du jardin son curé. À partir de dimanche prochain, Religion du Monde entre dans le temps des rediffusions estivales. Geneviève Delru, Cécile Bonissi vous donne rendez-vous en septembre et vous souhaite un bel été.